Gilles Renaud, directeur général des ateliers créatifs, est très actif et occupé actuellement dans le dossier chaud des ateliers d'artistes. Alors, plusieurs des regroupements sont actuellement sur un pied d'alerte. Et que ce soit le 305 Bellechasse, l'ancienne usine de Cadbury, Belleville, Milex, la grande menace, c'est bel et bien le développement immobilier freiné et des gros joueurs de l'intelligence artificielle qui viennent s'installer aux abords, tout près des ateliers d'artistes. Alors, je suis absolument ravie d'avoir à mes côtés une personne qui peut nous renseigner davantage sur cette situation très préoccupante pour la communauté artistique, Gilles Renaud. Bienvenue.
Merci, bonjour. Je suis très content aussi d'avoir l'occasion de parler de cette situation-là, parce que c'est une forme de pédagogie, en fait, dans ce qui est en train d'arriver pour sensibiliser les gens, pas uniquement les politiciens, mais tout le monde, incluant les entreprises, les résidents des quartiers. Qu'est-ce que ça apporte des ateliers d'artistes dans un quartier et qu'est-ce que ça cause quand c'est menacé, ce qui est la situation actuellement?
Qu'est-ce que ça apporte? C'est certain que les ateliers d'artistes, en tout cas, beaucoup s'entendent pour dire que les ateliers d'artistes apportent une plus-value à un quartier énorme. Et que les problèmes de hausse de loyer, par exemple, ben, nuisent à cette vie artistique qui est tant appréciée. Et
je vais faire le lien peut-être avec votre présentation, parce qu'il y a actuellement une situation difficile pour les ateliers d'artistes, mais ce n'est pas nouveau. C'est pas unique à Montréal. Le phénomène de l'exode des ateliers, des quartiers centraux, suite à la spéculation, aux conversions d'immeubles en condos, bref, au développement, c'est pas non plus rattaché à l'intelligence artificielle comme telle. C'est un déclencheur, mais il y a eu d'autres déclencheurs avant. Le lien avec Atelier Créatif, c'est que nous, on a été créé en 2007, un organisme à but non lucratif, suite à une crise comparable à ce qui se passe aujourd'hui, qui était à l'époque à la Groover, où il y avait exactement la même situation, possiblement une transaction immobilière, une conversion en condo. Les artistes se sont organisés. Il y a eu les Amis de la Groover à l'époque, on est au début des années 2000, qui a donné des résultats dans le sens que l'immeuble a été protégé, étant défini comme secteur d'emploi, donc une impossibilité de convertir en condo, ce qui a mis fin au problème. Mais les artistes,
quel beau développement!
Oui, ça a été une leçon, en fait, comme un des outils parmi d'autres. Mais les artistes auraient souhaité acquérir l'immeuble, ce qui est la meilleure solution. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur plusieurs années, mais qui n'a pas abouti. Par contre, cette situation-là a amené la CEDEX Centre-Sud Plateau-Mont-Royal à l'époque, Culture Montréal, gouvernement du Québec, Canada, il faut qu'on se dote d'un outil immobilier qui fasse en sorte que ces crises-là n'arrivent pas ou moins. Donc, c'est dans ce contexte-là que Atelier Créatif, suite à la crise de la Groover, on est en 2007, il y a eu l'acquisition du Chat des artistes. À l'époque, 30 000 pieds carrés, une centaine d'artistes, d'artisans dans environ 50 ateliers.
Alors, un succès, ça?
Oui, ça, vraiment, on voit que ça répond à un besoin immense. Ça, c'est le projet qui a démarré Atelier Créatif, ouvert ses portes en 2010. 10 ans plus tard, ou presque 8 ans plus tard, on s'occupe aujourd'hui de 300 000 pieds carrés. Donc, c'est 10 fois plus d'espace. C'est dans 6...
Non, vous êtes des gestionnaires, hein?
Oui, en fait, on est un développeur immobilier à but non lucratif, dont la mission est de faire en sorte que les créateurs aient des lieux de travail, de création qui sont abordables, d'une part, mais surtout pérennes.
C'est protéger, hein?
À long terme.
De l'inflation immobilière.
Exact. Et adéquat, en voulant dire aux normes sécuritaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment un idéal, puis on y arrive petit à petit. Par contre, il y a des crises comme il y a encore, que ce soit au Bellechasse ou au Cadbury. Puis de longue date, en fait, c'est...
On a l'impression que ça s'intensifie ces derniers temps. Est-ce que c'est le cas?
C'est le cas.
Ça a commencé avec le 305 Bellechasse, peut-être?
Oui, le 305 Bellechasse, mais en même temps, à cause du développement autour de la gare de triage, l'arrivée de l'université, amène un développement qui est utile, qui est nécessaire, qui est sain. Le morceau qui nous manque, c'est comment garder les artistes comme partie de ce développement-là et non pas en opposition parce qu'on les chasse. Donc, c'est de trouver la façon comment influencer, en fait, les décideurs, les promoteurs, la politique pour reconnaître la valeur des artistes, de la présence des artistes, pas juste au niveau de la diffusion. Ça, on est assez bien servi, mais au niveau de leur lieu de travail, de création. Et c'est ça qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de la crise actuelle parce qu'il y a une mobilisation.
C'est ça, hein? C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de porte-parole qui s'expriment aux médias.
On entend beaucoup parler, puis c'est tellement une bonne chose, parce que c'est souvent une pratique solitaire, les arts visuels, l'artisan. Quand il y a des crises comme à la Grover à l'époque ou sur De Gaspé avec le regroupement Pied Carré, c'est une crise isolée. Les politiciens réagissent, trouvent une solution, ça brasse un peu, puis après ça, ça retombe.
C'est toujours la fameuse approche d'éteindre les feux, là, puis à court terme?
À court terme, puis habituellement, ça coûte beaucoup plus cher. À force de le faire, par contre, on apprend des leçons. Mais comment c'est précieux, la mobilisation qu'il y a actuellement, parce que là, les artistes ont une approche. Un, ils sont très présents dans les médias grâce, entre autres, à une émission comme la vôtre. Mais il y a aussi une prise de conscience, d'un partage, en fait, de problèmes, une meilleure connaissance. Et il y a une voix qui est portée avec plusieurs parties prenantes autour de ça, mais il y a une voix que je dirais constructive. C'est-à-dire, on veut faire partie du développement. On veut être intégré. On veut influencer le privé, le politique, se doter d'outils pour faire partie de ça et d'une façon durable et non pas temporaire pour après ça, une fois que c'est bien développé, ben on paye le prix puis on s'en va.
Mais il y a comme, entre cette volonté de faire partie intégrante d'un beau projet qui peut être profitable à bien des, autant aux professionnels qu'à la communauté artistique, entre cette volonté et la réalisation, il y a comme des petits progrès qui doivent se faire, puis surtout une communication, une compréhension de la réalité artistique.
Oui, puis il y a une connaissance, je dirais, à acquérir des outils dont on dispose. Quand je dis « on », je parle du milieu, les artistes, les artisans. Comment se regrouper, devenir propriétaire d'un immeuble, comment faire un OBNL, une coop qui peut agir dans ça, comment influencer le politique, la connaissance des outils dont dispose la ville ou le gouvernement. On regarde ce qui se fait ailleurs dans d'autres métropoles culturelles à travers le monde. On connaît quelles sont les pistes pour arriver à un résultat qui est efficace et qui fonctionne. Puis quelle est la meilleure façon d'influencer les décideurs, c'est de voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, quelles erreurs ont été faites, quels bons coups ont été faits, quels outils ont été utilisés. Puis c'est pas sorcier, en fait, la pression immobilière, qu'on soit à Londres, à Paris, à New York, à Toronto, bien les artistes payent pour dans tous les quartiers centraux, puis il y a des solutions qui ont été apportées. Puis c'est en ce moment, à Montréal, avec Projet Montréal, on sent du moins une sensibilité à cette question.
Une ouverture de la part de Projet Montréal, de la ville, qui est cette ouverture-là, hein, la ville qui, on peut le mentionner, hein, ça a été diffusé dans les médias, qui parle d'une stratégie globale. Est-ce que Montréal Créatif peut aider à l'établissement de cette stratégie?
Bien, Atelier Créatif veut y participer, c'est sûr, mais en 2012, par exemple, il y a eu un groupe de travail qui a été fait, le gouvernement fédéral, provincial, Ville de Montréal, Culture Montréal, la SHDM, il y avait une vingtaine de personnes autour de ça pour analyser la situation des ateliers d'artistes. De ça, il est sorti un rapport en 2012 qui identifie des pistes qui n'ont pas été toutes mises en vigueur, mais certaines l'ont été, entre autres le Fonds des ateliers, qui permet de mettre aux normes des édifices, donc de les protéger mieux.
Mais semble-t-il qu'il est à renouveler, ce fonds?
Exactement. Il a pris fin au 31 décembre 2017. Il n'a pas été renouvelé à ce moment-ci. C'est un fonds auquel le gouvernement du Québec contribue et la Ville de Montréal. Et là, on essaie d'intéresser le gouvernement fédéral aussi. La Ville veut travailler pour convaincre ses homologues là, provinciaux, fédéraux, pour aussi rembarquer. Nous, on va aider à ça. La mobilisation qui a lieu actuellement va venir nourrir aussi cette approche-là. Mais d'autres pistes qui sont intéressantes, que je pourrais nommer, entre autres, un impact tellement négatif pour les ateliers d'artistes, c'est les taxes foncières. C'est négatif pour beaucoup, dans le résidentiel, tout ça, mais particulièrement pour les ateliers d'artistes, parce que ils peuvent avoir un loyer qui est abordable si on a réussi à les protéger, puis on se fait rattraper par les taxes qui peuvent coûter aussi cher que le loyer parfois. La ville.
Et mon Dieu, ça fait réagir.
Oui, ah oui, y a des cas spectaculaires où les taxes étaient de 1,25 le pied carré, puis en 5 ans, c'est monté à 5 $ le pied carré que l'artiste paye sur son loyer. Là. Donc, ça met en péril certains projets, mais il existe des outils. Le nouveau statut de métropole qui a été adopté là, il y a un peu plus d'un an, le nouveau pouvoir des municipalités a aussi donné des outils où la ville peut intervenir sur le taux de taxe foncière quand il y a un usage atelier ou culturel. Et ça peut même inciter des partenaires privés qui sont propriétaires à accueillir des ateliers d'artistes où la partie occupée par les ateliers aurait un autre taux de taxe. Donc, ils viennent participer à ce moment-là, le privé, de cette façon-là, sans être perdant au change. C'est une autre avenue qui est possible. Donc, il y a une quinzaine d'outils dont on dispose pour améliorer la situation.
Et où s'en est rendue cette négociation-là? Est-ce que ça avance?
Bien, disons...
C'est en début de processus?
C'est en début de processus parce que la mobilisation, là, on parle depuis le mois d'octobre, novembre. Il y a une pétition qui circule parmi les artistes, les artisans.
C'est important de le mentionner.
Au-dessus de 5 000 noms, présentement, parmi les artistes et artisans.
Et on peut encore la signer?
Et on peut encore la signer. Il y a un organisme qui a été créé, d'ailleurs, qui s'appelle Nos Ateliers.
Hashtag Nos Ateliers.
Exact. Puis il y a Atelier Montréal, qui n'est pas Atelier Créatif Montréal, c'est un autre organisme, où la pétition circule. C'est assez facile à trouver sur Nos Ateliers ou sur Atelier Montréal. Et ça vient, en fait, mobiliser les artistes, les artisans, et intéresser la ville parce que cette mobilisation-là est en recherche de solutions et de propositions, de pistes. Donc, on sent actuellement, effectivement, un intérêt sincère du politique à Montréal. On espère influencer au niveau du gouvernement du Québec aussi, parce qu'il y a un rôle à jouer, notamment au fond des ateliers. On donnait des exemples, par exemple, avec l'intelligence artificielle. On entend Mila, là, qui est sortie, puis qui est très bien. On va donner des crédits d'impôt.
Parce que sur l'intelligence artificielle, il faut le dire, hein, que ça fait partie de cette fameuse politique-là. On a déclaré Montréal comme un terreau idéal pour la super grappe d'innovation, intelligence artificielle.
Et c'est génial. Puis il y a un volet artistique ça, où les créateurs auront une place, mais il faut qu'ils soient présents dans les quartiers. Mais le lien que je voulais faire sur un exemple, c'est que ce soit avec toute l'électronique, Ubisoft et autres, on est enchanté de les avoir. Ils ont des crédits d'impôt sur les salaires.
Ce sont des gros joueurs qui ont un gros lobbying.
Absolument. Et c'est profitable pour les actionnaires, pour le développement. Ça crée des emplois. On fait de Montréal un centre stratégique. Mais l'exemple, dans le privé, il va y avoir des crédits d'impôt pour venir aider à payer des salaires jusqu'à 30 % au niveau des ateliers d'artistes qui sont des travailleurs autonomes.
Qui ont des conditions de vie fragiles.
Le revenu moyen des artistes en art visuel va être tout près de 20 000 $. Quel outil est-ce qu'on peut créer un crédit d'impôt remboursable? Parce qu'on reconnaît une valeur aux artistes. Ça relève du gouvernement du Québec. C'est une démarche qu'il faut faire, qu'il faut amener. Ça prend des années. C'est encore une illustration, en fait, des outils qu'on peut utiliser, qui existent, qui ont été testés à certains endroits, c'est quelle volonté on a ici de l'établir et quelle reconnaissance on va donner aux artistes, à leur présence dans les quartiers, au niveau de la qualité de vie, de ce que ça apporte, au niveau du lien avec la communauté. Tout ce qu'on voit, que ce soit au quartier des spectacles, dans les galeries, un peu partout, il faut que ça ait été créé dans des lieux. Puis on ne peut pas envoyer tout le monde en dehors de Montréal parce que c'est plus abordable. L'enjeu est là et la mobilisation actuelle va faire en sorte, selon moi, qu'il y a un tournant à Montréal.
Ça sera un enjeu 2019.
2019-2020, je pense qu'on va voir, on parlait tantôt comment agir.
Aussi qui risque de vraiment faire boule de neige, d'aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilisation dans tous les différents regroupements d'ateliers touchés.
Oui, et les associations, on parle du RAV, le RCAQ, le REIC, les métiers d'art, etc., et qui ont à être présents aussi et qui sont intéressés par ce mouvement-là. Mais le tournant, pour moi, va faire en sorte que l'année prochaine et la suivante, on est capable de mettre en place des outils de stratégie, d'urbanisme, qui vont amener un développement durable et non pas juste des réactions à des crises. Puis ça aura été le tournant 2019-2020, la mobilisation actuelle et l'attitude, je dirais, du politique qui reçoit cette pression-là de façon constructive.
Vous travaillez avec Pied Carré et vous débordez de votre mandat de développeur immobilier, hein, parce que vous avez développé une expertise. Vous êtes sollicité pour votre expertise.
Oui, le lien avec Regroupement Pied Carré était un organisme à but non lucratif lui-même, qui est une mobilisation des artistes en 2010 pour la même cause que ce qu'on a au 305 et tout ça. Et nous, on a un mandat, Pied Carré nous donne le mandat, en fait, de gérer le projet de Regroupement Pied Carré sur la rue de Gaspé. Et de là ressort un enjeu, je parlais tantôt des taxes foncières, c'est très présent ici. Et Pied Carré sera arrivé, je crois, avec son histoire, à faire bouger les choses à la ville par rapport aux taxes foncières avant que ça arrive ailleurs. Et ça, c'est un mérite qu'on peut donner au projet ici. On a effectivement nos projets, que ce soit le Chat des artistes, le projet Sainte-Catherine dans Hochelaga-Maisonneuve, la Tour Wellington, le Couturoscope, le Beauvril. Donc, on a des projets soit qu'on est propriétaire, locataire à long terme, 30 ans ou 50 ans avec un privé, ou gestionnaire pour quelqu'un d'autre, comme c'est le cas avec Pied Carré. Mais on voit le besoin immense de protéger les ateliers. Il y a déjà eu une étude qui montrait qu'il y avait environ 1,2, 1,3 million de pieds carrés à Montréal qui avaient un usage atelier, artiste, art visuel, artisan, qui relève du privé la plupart du temps, qu'il y a des baux à court terme, les conditions vont changer d'une année à l'autre, et c'est ça qu'il faut protéger. Il y a peut-être aujourd'hui 300, 350 000 pieds qui sont protégés. Si on réussit à protéger les ateliers du 305 de Cadbury ou de d'autres, ou de créer des nouveaux projets qui sont durables, bien, on va se rapprocher d'avoir vraiment une solution pérenne à Montréal.
Oui, puis global, j'ai pu assister à une de vos conférences à l'ancienne usine de l'édifice Cadbury. Vous êtes appelé à aller ici et là. Vous êtes devenu un consultant de par votre expertise.
Au fil des années, effectivement, à l'interne, on a développé une expertise, on a acquis des outils de gestion immobilière qui sont comme un promoteur immobilier, en fait, en termes d'efficacité et tout ça, mais toujours avec la mission de faire en sorte qu'il y ait des ateliers abordables au bout de la ligne. La situation actuelle fait effectivement que notre expertise est utile, on est comme un outil pour des… si on prend par exemple Cadbury ou 305, on peut accompagner pour trouver des solutions sans qu'on soit impliqué nécessairement dans les projets, ou on peut aussi s'impliquer. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que nous, en plus de nos opérations, ce volet-là…
Prend de l'ampleur,
puis amène certains questionnements là, sur notre capacité.
Parce que ce sont, comme vous m'expliquez, ce sont des démarches qui devraient peut-être être faites par la Ville de Montréal, en fait.
En partie, si on réussit à sensibiliser puis à changer la donne et qu'il y a…
On devrait prendre la relève à un moment donné.
On pourrait prendre la relève ou nous, en fait, élargir notre mandat puis avoir des ressources pour jouer ce rôle-là aussi, qui est une autre avenue, là, une ou l'autre. Mais on pense que les choses peuvent être en train de changer en ce moment puis que peut-être la Ville pourrait venir à jouer ce rôle-là ou qu'on ait moins besoin.
Parce que là, vos fonctions, ça va de gérer le quotidien d'un immeuble à aller en consultation dans une situation de crise dans un atelier d'artiste. Pour un regroupement d'ateliers d'artistes?
Puis on va être les…
C'est très large.
On va être les premiers heureux à ce qu'il y ait des projets qui soient protégés et qu'il y en ait de plus en plus, qu'on y soit ou pas impliqué. Mais si on peut contribuer, effectivement, c'est vraiment… ça fait partie de la mission là, qu'on s'est donnée, avec les limites d'énergie, de ressources là, qu'on a effectivement avec les opérations quotidiennes. Mais il y a vraiment une effervescence en ce moment, puis on fait partie de la mobilisation, on accompagne à notre manière, en fait, on est sur le terrain avec une connaissance parce qu'on a agi depuis 10 ans dans ce niveau-là et qui s'avère être utile, et tant mieux. Puis on veut la partager.
Alors, les principaux artistes qui sont impliqués, là, que vous côtoyez régulièrement, est-ce que vous êtes en mesure de les nommer?
Bien, il y en a, en fait, je pourrais nommer ceux qui sont très présents actuellement dans la mobilisation parce qu'ils jouent un rôle de premier plan. Il y a
Les ardents défenseurs de la cause?
Oui, Dominique Pétrin, qu'on a vu, Jonathan Villeneuve, Jason Cantoro. Dans nos projets, il y a d'autres artistes aussi, François Blanchette, par exemple, qui sont connus au niveau national et international et qui subissent quand même ces crises-là, qui sont installés et qui sont obligés de déménager, qui sont obligés de changer de lieu. Fait que c'est pour ça que la mobilisation, elle est très puissante, je dirais, et très crédible, parce qu'on a à la fois des artistes émergents, des artistes établis, des artistes reconnus. Donc, c'est pris au sérieux.
Peut-être en terminant, M. Gilles Renaud, on parle beaucoup de le combat mené par les artistes, la mobilisation artistique, une ouverture de la part de la Ville. Qu'en est-il du milieu des affaires? Où en est rendu le milieu des affaires? Peut-être qu'on pourrait terminer sur ce point-là. Est-ce qu'on doit vraiment mettre les bouchées doubles ou il y a une ouverture de la part du milieu des affaires, une sensibilisation?
Ça nous permet de terminer sur une note positive aussi, parce que je dirais qu'il y a une sensibilisation très forte de ce niveau-là aussi. On connaît beaucoup dans la culture plus anglo-saxonne la présence du mécénat et tout ça auprès des institutions. Mm-hmm. Avec le Québecing de plus en plus, avec le Conseil des arts de Montréal, la présence du milieu des affaires en soutien à des artistes, à des concours, à des projets culturels. Et je dirais même dans la mobilisation actuelle, il y a un intérêt du milieu des affaires. Il y a certaines personnes présents dans des organismes, que ce soit Montréal, Métropole culturelle, Culture Montréal, mais qui suivent ce qui se passe avec un intérêt réel. Il y a un pouvoir d'influence, en fait. On souhaite l'implication du milieu des affaires.
Il y a une partie du milieu des affaires qui est sensibilisée.
Absolument. Puis on parle pas juste ici de mécénat, parce que le milieu des affaires va inclure aussi les promoteurs immobiliers. Il faut qu'eux réalisent de trouver la façon de préserver des ateliers dans leurs projets existants ou nouveaux.
Et qui voient des avantages pécuniers.
Ça, il faut faire de la pédagogie de ce côté-là, mais c'est un élément important du milieu des affaires qu'il faut contaminer de façon constructive, je dirais, à cet effet-là. Et nous, on se fait appeler maintenant, à certains égards, par des privés qui veulent développer des projets, qui souhaiteraient y inclure des ateliers, des projets qui sont en design, là, en conception, qui ne sont pas dans des bâtiments existants.
Et bien, je suis renversée que vous soyez appelé par le milieu des affaires.
Ça, c'est
le milieu de promoteurs immobiliers?
C'est, disons que c'est une minorité pour l'instant. Ça ne fait pas encore partie de la culture, mais c'est remarquable. C'est un phénomène qu'on a vu ailleurs. À Londres, par exemple, la pression immobilière est tellement forte, il n'y a pas un pouce carré ou un centimètre carré qui est disponible au développement. Quand il y a un développement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été détruit. Et maintenant, les propriétaires qui font ce développement-là vont contacter des organismes comme Acme Artist Studio à Londres pour les intégrer dans leur développement comme partie prenante. À Montréal, on n'est pas rendu là, mais on sent déjà cette sensibilisation-là. La pression politique peut aider parce que les arrondissements, par la réglementation, sont capables d'inciter, je dirais, des promoteurs à inclure pour des avantages fiscaux ou de réglementation ou de développement.
Puis que des entreprises puissent devenir modèles là, pour la durabilité, la création, la préservation du patrimoine artistique.
Oui, c'est très large. En fait, l'effet de protéger les ateliers et les bâtiments industriels à cet effet-là, c'est la société au complet qui en profite. C'est les quartiers, c'est la qualité de vie des citoyens, c'est les liens avec les résidents, les commerçants, les familles. Il faut vraiment comprendre cette valeur-là et l'intégrer.
Ah, monsieur Gilles Renaud, j'aurais poursuivi encore l'entretien, encore et encore, parce qu'il y a énormément d'autres points dont il faudrait parler, mais c'est tout le temps dont on dispose. Ce fut vraiment un entretien des plus intéressants et instructifs. On souhaite une bonne continuation de votre combat.
Bien, merci de l'intérêt, puis je suis convaincu que ça sera une historique à Montréal, le changement qui est en train de se produire.
Merci de nous faire ce pronostic optimiste. Merci.
Au revoir.